l'histoire de notre monde, chers frères et sœurs, chers amis, est celle des relations, n'est-ce pas, que les hommes entretiennent entre eux. Mais si nous regardons bien les choses, nous voyons que cette histoire est faite souvent de déchirements et de divisions, de conflits. Hein. Si vous prenez le métro, le train, que vous entendez parfois les conversations que les gens entretiennent entre eux, eh bien, ça parle souvent d'une tierce personne, parfois, ou de relations difficiles qu'on a avec celui-là dans le travail, ou le patron. Peut-être que ça nous arrive même d'être ainsi. Il y a partout des divisions entre les pays, des divisions dans les religions, entre la politique, même d'un même pays, il y a des divisions. Au sein d'une même famille, souvent on trouve des divisions, des conflits, des difficultés relationnelles, dans les relations conjugales, dans les relations entre les parents avec leurs enfants. Je pense que cela ne nous est pas inconnu. Et je dois ajouter aussi qu'on trouve malheureusement bien souvent des divisions au sein des membres d'une même assemblée, d'une même église. Et non seulement il y a des divisions, mais je crois que tout semble parfois propice à la division. Hein. La couleur de la peau qui est différente, par exemple, c'est quelque chose qui est propice à la division et aux difficultés. La provenance ethnique, la religion d'origine, parfois. Et parfois, c'est la sensibilité doctrinale. On se déchire sur des points particuliers de doctrine. Parfois, c'est les goûts vestimentaires ou bien musicaux. Toutes ces choses, parfois, sont des ferments, des sujets qui peuvent entraîner la division. Et depuis que le péché est entré dans le monde, n'est-ce pas, je crois que la paix a déserté les cœurs. Et c'est la division qui règne. L'homme n'est pas en paix avec Dieu, et il n'est pas en paix avec lui-même, ni avec sa propre conscience qu'il accuse continuellement. Il n'est pas non plus en paix les uns avec les autres. Ils ne sont pas non plus en paix les uns avec les autres. Alors bien sûr, on aspire à la paix, on aspire à la réconciliation parfois, on a parlé de réconciliation ce matin, et on recherche ardemment la paix sans vraiment jamais pouvoir l'atteindre. Alors on organise des conférences pour la paix, des marches pour la paix, des concerts pour la paix, des journées mondiales ou internationales pour la paix. Mais la paix n'est toujours pas là. On la nomme beaucoup, mais elle n'est pas forcément vécue dans les cœurs. Et les médiations en faveur de la paix sont nombreuses et bien souvent coûteuses, mais elles sont souvent inefficace. Alors on arrive bien sûr parfois par-ci par-là à arracher quelques compromis, mais pour une paix qui ne dure jamais, pour une paix qui ne dure jamais. Et cela fait penser, n'est-ce pas, aux paroles de Dieu par le prophète Ézéchiel, où il dénonce ceux qui ont des visions de paix. Après, dès que de normalement, on a l'impression qu'on a des visions de paix un peu partout. Il dit des prophètes d'Israël, il parle d'eux, il dit qu'ils prophétisent sur Jérusalem et qui ont sur elle des visions de paix, quand il n'y a point de paix, dit le Seigneur. Et on peut avoir l'impression que notre monde, c'est comme ça. On a des visions de paix, mais il n'y a pas véritablement la paix. Et je voudrais lire avec vous un texte dans Éphésiens que le frère Christian a lu déjà ce matin, où l'apôtre Paul va parler de cette réconciliation et de cette paix qui peut exister par Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2. Probablement, cette église d'Éphèse, qui est constituée de juifs, de personnes d'origine juive, et puis de chrétiens d'origine juive et de chrétiens d'origine païenne, connaissait quelques difficultés relationnelles. Hein, si on se souvient de l'amitié profonde que se vouaient les juifs et les païens, n'est-ce pas? On dit qu'ils étaient parfois amis comme chien et chat, hein, C'est-à-dire, c'était vraiment hein, plus une animosité qui existait entre eux. On peut supposer que même après la conversion, eh bien, voilà, il y a encore des restes et peut-être des difficultés qui pouvaient surgir dans l'Église et qui pouvaient faire que des divisions existent. Dans une église comme celle de Corinthe, par exemple, hein, vous vous rappelez ceux qui disaient « moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas, moi je suis de Christ », il y avait déjà des divisions pour une église qui était à majorité constituée de païens. Donc on peut imaginer dans une église comme celle-là qu'il y avait certainement des difficultés, que Paul écrit cette lettre hein, pour montrer quelle grande œuvre hein, Dieu a accomplie en fondant son église, comment il nous a sauvés. Ici, quand vous lisez le chapitre 2, qui commence avec « Vous étiez morts par vos offenses, dans vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. » Et puis il dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, eh bien, il montre comment il nous a aimés, comment il nous a sauvés par la grâce au moyen de la foi. » Et puis on arrive au verset 11 que nous avons lu, ici, et l'apôtre Paul parle aux personnes d'origine païenne aux Éphésiens, dans cette église, et puis il leur dit « Vous, autrefois, voilà comment vous étiez ». Il parle de cette séparation qu'il connaissait, de cet éloignement des choses spirituelles, ici, pour arriver à ce qu'ils sont maintenant, ce que vous étiez, puis ce que vous êtes maintenant. Et comment est-ce que vous êtes là où vous êtes maintenant? Et ce sur quoi il va insister, je crois, c'est sur l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix du calvaire pour réconcilier les hommes avec Dieu et aussi entre eux. Donc il va montrer aux Éphésiens, voilà, que ce que Dieu a fait, n'est-ce pas, pour le monde entier, l'étendue de l'œuvre de Christ à la croix du calvaire. Alors je vous invite on va pas tout relire, mais peut-être on peut lire à partir du verset 14, ici, verset 13 déjà, il dit « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. » Il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi, donc, vous n'êtes plus des étrangers, des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est vraiment un beau texte, n'est-ce pas? Et qui est extrêmement encourageant. Et si vous lisez ce texte, vous voyez qu'il y a une progression ici. On pourrait dire que l'apôtre Paul parle de cette inimitié, cette hostilité qui existe entre les Juifs et les païens, cet éloignement que connaissaient les païens par rapport aux choses spirituelles, pour terminer avec une intimité. Je ne sais pas si vous voyez cela. Hein, verset 18 dit « Les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père, dans un même esprit. » Puis ici, verset 19, « Ainsi, vous n'êtes plus des gens, vous n'êtes plus des étrangers. » D'accord ? Il avait commencé au verset 11 en disant « Autrefois, païens, dans la chair, ainsi circoncis, etc. » Il dit que vous étiez des étrangers aux alliances, verset 12 de la promesse. Et maintenant, verset 19, il dit, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Hein? Il y a un accès, une intimité ici qui est décrite dans ce qu'il dit ici. Donc, j'ai intitulé ce message ce matin « De l'inimitié à l'intimité ». De l'inimitié à l'intimité. Et Paul, quand il écrit ces mots aux croyants d'Éphèse, on l'a dit tout à l'heure, hein, il cherche probablement à éteindre peut-être des ferments de division qui pourraient exister au sein de cette assemblée dans laquelle il y a, on l'a dit tout à l'heure, des personnes d'origine juive et des personnes d'origine païenne. Et donc, il va les aider, c'est pas, en prenant leur situation, mais en attirant vraiment le regard sur ce que Jésus-Christ a fait, sur l'œuvre de réconciliation que Christ a accomplie à la croix du calvaire. Première chose que je voudrais souligner ici, il montre que l'inimitié contre Dieu et contre les hommes caractérise les relations de l'homme non régénéré. L'inimitié contre Dieu, l'hostilité contre Dieu, et puis les uns aussi contre les autres caractérisent vraiment les relations de l'homme qui n'est pas régénéré. L'inimitié, c'est le sentiment, Larousse dit, d'antipathie, d'hostilité et de haine que l'on peut avoir les uns envers les autres. Et quand on regarde autour de nous tout ce qui se passe comme conflit dans le monde, eh bien, on pourrait dire que c'est à cause de l'inimitié qu'il y a dans le cœur des hommes, les uns envers les autres. Il y a une hostilité naturelle dans les cœurs, les uns envers les autres. Et pourquoi cela ? Mais parce que le péché conduit inévitablement à l'inimitié contre Dieu, premièrement, et puis à l'inimitié aussi contre les hommes. Ici, le péché conduit inévitablement à l'inimitié. L'apôtre parle ici de cette inimitié par deux fois. Regardez ce qu'il dit au verset 14. Il dit que Jésus-Christ a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Et puis au verset 16, il dit qu'il a détruit par la croix l'inimitié. Hein, cette hostilité, cette haine, ces choses qui existent dans le cœur de l'homme, à la fois contre Dieu et contre les autres personnes. L'homme pécheur, non régénéré, il entretient vraiment une haine et une hostilité à l'égard de Dieu. Même s'il ne le dit pas, même s'il ne le croit pas, l'Écriture le dit. Hein, Colossiens 1, verset 21 dit « Vous étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. » Ici, il parle de cette animosité, cette hostilité que l'homme naturel a à l'égard de Dieu à cause du péché. Cela s'est instauré, bien sûr, depuis le jardin d'Éden, lorsque le diable est venu voir Adam et Ève et puis les a tentés, a dit « Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger de tous les arbres du jardin ?» Et puis, il a dit « Non, non. » Ève a répondu « Non, mais Dieu a dit que le jour où nous en mangerons, nous mourrons. » Il a dit « Non, non, vous ne mourrez pas. Non, non, c'est pas vrai. » Et il les a bien sûr poussés à désobéir à Dieu en leur faisant croire que, eh bien, ils ont droit à découvrir les choses par eux-mêmes. En suscitant l'orgueil, on pourrait dire, dans le cœur, et en faisant croire davantage en eux-mêmes qu'à ce que la parole de Dieu avait dit. Et ainsi s'est installé, bien sûr, le péché dans le cœur, qui est l'orgueil, qui se manifeste par l'orgueil du cœur humain. Et vous pouvez mettre à la base de tous les conflits que l'on connaît l'orgueil qui existe dans le cœur humain. Dans toutes les relations conflictuelles, c'est l'orgueil qui existe à cause du péché dans le cœur humain qui en est la cause. Le péché, l'orgueil humain, vraiment à la base de cette inimitié contre Dieu.
Et l'esprit charnel, la Bible nous dit, est inimitié contre Dieu. L'apôtre Paul dit par exemple, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Donc celui qui s'affectionne même aux choses charnelles, qui vit sa vie voilà, sans se soucier de Dieu, il est inimitié, la Bible dit, contre Dieu parce que il le fait à cause du péché, de l'orgueil qui existe dans son cœur. L'apôtre Jacques dit même que l'esprit mondain est inimitié contre Dieu. Adultère que vous êtes, disait-il, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Si quelqu'un donc veut être ami du monde, il se rend ennemi de Dieu. Et donc l'esprit mondain aussi, hein, quand on est attaché aux choses du monde, manifeste cette inimitié que l'on a contre Dieu. Et donc je pourrais dire que l'inimitié contre Dieu caractérise vraiment l'homme non régénéré. Il est Dieu dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait, dans toutes ses lois. L'apôtre Paul dit qu'il ne peut même pas se soumettre, il ne veut pas se soumettre à la loi de Dieu, mais il ne le peut même pas non plus. La loi de Dieu est une abomination pour lui. Hein. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Et quand vous écoutez les gens parler, eh bien, on veut tout, mais surtout pas entendre parler de Dieu. Hein. Parce que le cœur de l'homme se dresse, non régénéré, se dresse en ennemi de Dieu. Mais cette inimitié contre Dieu entraîne aussi une inimitié contre les autres personnes. Et nous avons l'illustration de le jardin d'Éden. Quelle est la première réaction d'Adam lorsque, après le péché, quand Dieu vient les voir, il dit « Pourquoi as-tu mangé du fruit de l'arbre ?» Il a accusé tout de suite sa femme. Et on voit tout de suite qu'il y a eu une relation qui a été rompue là aussi. Donc la communion s'est rompue avec Dieu, mais la communion s'est rompue aussi avec son semblable, avec celle qui était son aide ici. Et ce que l'homme essaie de faire de nos jours, c'est de retrouver parfois ses bonnes relations, de rétablir ses bonnes relations, mais en rejetant la relation que l'on doit avoir avec Dieu. Et quand Jésus dit par exemple à Matthieu chapitre 22 verset 36 à 40, quand des pharisiens viennent le voir et puis lui demandent quel est le plus grand commandement, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Il dit « C'est le premier commandement. » Et le plus grand commandement. Il dit « Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. » Donc on a à la fois cette relation, on le voit, verticale, et puis cette relation horizontale. Il dit que les deux, on ne peut pas avoir l'une sans l'autre. Quelqu'un qui dit « Moi, j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée, mais je n'aime pas mon prochain », ce n'est pas possible. Et quelqu'un qui essaye d'aimer son prochain sans aimer Dieu, ce n'est pas non plus possible. Il faut les deux. Et un auteur disait, le docteur Martin Lloyd-Jones disait ceci, il souligne à propos de ce verset, il dit que la plus grande tragédie dans le monde moderne, c'est que l'homme a rejeté complètement le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et puis, il s'efforce d'établir le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, bien sûr, c'est l'amour. On doit accepter tout par amour. On aime le prochain, peu importe ce qu'il fait, peu importe comment il vit. Chacun a droit de... Et on voit ce que ça donne. D'accord ? Et on est intolérant, n'est-ce pas ? Si on n'accepte pas ce que tout le monde fait. Mais ici, ce que Dieu dit, hein, on ne peut pas dissocier les deux choses. Il dit, il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme. Et aussi, le corollaire, c'est que l'on aime aussi son prochain. Et donc, tous les conflits auxquels on assiste, de quelque nature que ce soit, et dans quelque époque que ce soit, eh bien, est basé sur le fait que l'homme est inimitié contre Dieu. Et inimitié contre les autres aussi. Et le péché dans le cœur de l'homme vraiment intensifie, je crois, toutes les distinctions naturelles qui existent. C'est une distinction naturelle que la couleur de la peau, n'est-ce pas ? C'est Dieu qui a fait les choses ainsi. Mais à cause du péché, ces distinctions deviennent des sujets de division. C'est pas, et on pourrait prendre beaucoup d'autres choses, le niveau social, la langue, le pays d'où l'on vient. Toutes ces choses sont des distinctions réelles qui existent entre les hommes et naturelles. Mais à cause du péché, cela peut devenir des sujets de division et parfois même de guerre. Alors ici, on voit Paul, enfin, en tout cas on peut souligner cela à travers ce que Paul dit ici, montre que notre problème fondamental, il dit aux Éphésiens, c'est pas que vous soyez juifs ou grecs, c'est le péché et l'inimitié qu'il y a dans les cœurs. Ça c'est la première chose. Mais il dit ici, regardez le verset 4, il dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. On montre ici que, la parole nous montre ici que Dieu a initié la réconciliation. Il y a inimitié entre Dieu et l'homme à cause du péché, mais Dieu est celui qui a initié la réconciliation. Ce ne sont pas les hommes qui ont décidé un jour de se mettre à table. Écoute Dieu, ça fait trop longtemps que ça dure. Je crois qu'il faut qu'on prenne les choses par le bon bout. Nous allons nous asseoir à une table de négociation et puis nous allons entamer des pourparlers de paix. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour établir la situation? Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Hein? L'apôtre Paul dit, ici, regardez, il dit « Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, donc dans toutes les difficultés d'animosité, d'hostilité, à l'égard de Dieu aussi, à l'égard des hommes, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » C'est quelque chose que l'homme vit, on pourrait dire, passivement. C'est Dieu qui a initié cela. C'est lui qui est à l'initiative de cette réconciliation. Il dit « Vous avez été rapprochés ». Un peu plus loin, il dit « Lui qui des deux n'en a fait qu'un, c'est encore lui qui a œuvré. Il a voulu créer avec les deux un seul homme nouveau et les réconcilier avec Dieu. » Il dit que Dieu a entamé, de par lui-même, la réconciliation. Et l'homme est passif dans cela. Tout cela est entièrement l'œuvre de Dieu. Le frère a lu au Romains chapitre 5, verset 10, tout à l'heure, où il est dit, « Même lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu. » Ce n'est pas quelque chose à laquelle l'homme a participé à part égale avec Dieu. C'est Dieu qui a entrepris de réconcilier l'homme avec lui-même. D'accord? Donc l'apôtre Paul dit « Vous avez été réconciliés ». Dans Colossiens, je crois, chapitre 1, verset 20, il dit la même chose, c'est qu'on a été réconciliés avec Dieu. Je lisais dernièrement un peu un article d'un diplomate libanais qui exprimait dans le journal Le Monde au mois d'août dernier, il n'y a pas très longtemps, il s'exprimait sur la difficulté de médiation qu'il y a en faveur de la paix pour la Libye et tous les problèmes qui se passent en Libye. Et il dit « La réconciliation n'est pas un fait, mais un processus. La réconciliation n'est pas un fait, mais un processus. » Et donc, ainsi le monde, je crois, hein, pense pouvoir établir la paix à force de négociations, d'avancer dans un processus long, complexe, fait de compromis extrêmement subtils. Et donc il faut poursuivre ce long processus pour arriver à une réconciliation. Mais pour amener la paix, l'apôtre Paul dit que la réconciliation n'est pas un processus long. Il dit que Dieu a fait la réconciliation. La réconciliation n'est pas un processus, elle est le fait de Dieu, le fait de Dieu lui-même. C'est lui qui a initié les choses et qui l'a accompli, mais parfaitement. Il dit « Vous avez été rapprochés, vous avez été réconciliés avec Dieu ». Ce n'est pas « Vous le serez au bout de quelques temps, après quelques années de dures négociations, de tractations ». Mais il dit « Vous avez été réconciliés avec Dieu ». Dieu a accompli cette réconciliation de par lui-même. Et l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens 5, 18, il dit « Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ ». C'est son œuvre. Tout cela, c'est son œuvre. Et à lui seul soit la gloire pour tout ce qu'il a fait. Il nous a réconciliés avec Christ, avec lui-même, par Christ. Et il nous a donné, dit l'apôtre Paul, le ministère de la réconciliation.
ici. Donc la réconciliation est l'initiative de Dieu. Mais la réconciliation, on le voit ici, est au moyen de du sang de Christ, au moyen de Jésus-Christ lui-même, de son œuvre, de l'œuvre de Christ, de l'œuvre expiatoire de Christ à la croix du calvaire. Pas de pourparler, on l'a dit, hein, pas de compromis, de paix, mais Dieu a accompli lui-même la réconciliation par Jésus-Christ. L'apôtre présente Christ comme le moyen de cette réconciliation. Regardez ce qu'il dit au verset 12. Il dit « Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Afin de créer, verset un peu 16, quoi. Il parle, il dit « Afin de... » pardon, verset 15. Il dit « Ayant anéanti par sa chair la loi et les ordonnances... » Dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix. Donc on voit ici hein, apparaître plusieurs fois par, regardez ici verset 13 déjà, il est dit « Nous sommes rapprochés par le sang de Christ ». Ici, au verset 16, il est dit que c'est par la croix qu'il a détruit l'inimitié. Et puis au verset 18, il dit que c'est par lui, par Christ, que les uns et les autres, nous avons donc cette intimité, ce même accès auprès du Père, dans un même esprit. Donc Jésus-Christ est l'unique et incontournable et indispensable moyen de la réconciliation. Ici, 2 Corinthiens 5, 18, je vous relis, il dit « Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. » Et c'est uniquement par Christ que l'homme peut être réconcilié avec Dieu. Et c'est aussi uniquement par Christ que les hommes peuvent être réconciliés véritablement, au sens biblique du terme, avec les uns, avec les autres. Il dit, verset 14, « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. » Il dit au verset 15 qu'il a établi la paix. Et puis au verset 17, il dit qu'il a annoncé la paix à ceux qui étaient loin et annoncé aussi la paix à ceux qui étaient près. Il dit que Jésus-Christ lui-même, non seulement il a annoncé la paix, non seulement il établit la paix, mais il est lui-même la paix. Donc quand il règne dans les cœurs, dans le cœur, il y a la possibilité d'avoir la paix avec Dieu, mais aussi la paix les uns avec les autres parce qu'il règne dans chaque cœur de ceux qui lui appartiennent. Et donc, il peut ainsi établir la paix, non seulement avec Dieu, mais aussi les uns avec les autres. C'est en Jésus-Christ seul que peut s'opérer toute réconciliation. Vous voyez, c'est intéressant de voir comment l'apôtre Paul aborde la chose, parce que on pourrait dire, il parle à des Juifs et à des païens qui voilà, connaissent peut-être qui ont peut-être quelques positions un peu sectaire, hein, opposé. Et il ne leur dit pas, écoutez, on va essayer de trouver le moyen, il faut essayer de vous entendre, il faut parler ensemble, etc. Il ne dit pas ça. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, Dieu vous a réconcilié par le sang de Jésus-Christ. Et c'est comme s'il dit, et vous devez vivre en croyant réconcilier aussi les uns avec les autres. C'est ce qu'il est en train de dire ici en substance. Il dit que l'œuvre que Christ a accomplie à la croix du calvaire, il dit, vous avez des problèmes, ouais, hop, regardez, l'œuvre que Christ a accomplie à la croix du calvaire, c'est une œuvre de réconciliation entre l'homme pécheur et Dieu. Dieu l'a fait par le sang de son propre fils. Il attire l'attention sur le prix qui a été payé. Il attire l'attention sur la personne même de Christ et sur l'efficacité de ce qui a été accompli. Il est la paix. Il a établi la paix. Il annonce la paix. Hors de lui, il n'y a point de possibilité d'avoir la paix et de vivre dans une bonne harmonie en tant que croyant. Et donc c'est à lui qu'il faut regarder. Donc il ne cherche pas à discuter, vous voyez, avec eux de manière, on pourrait dire, horizontale, mais il considère la chose d'une manière christocentrique. Il ne dit pas qu'il faut plus de discussions,
plus de communication entre vous, mais il dit qu'il faut considérer Christ, qui il est et ce qu'il a fait. Il dit, il est lui-même notre paix, il a établi la paix et il est venu pour annoncer la paix. Donc vous pouvez pas vivre autrement que ce que Christ est, que ce que Christ établit ou que ce que Christ est venu faire. Et il l'a fait par son sacrifice, en versant son sang. On en a parlé ce matin quand on a rappelé, on a pris la scène, qu'on a rappelé l'importance de la table du Seigneur. Il n'y a aucun autre moyen pour établir, chers frères et sœurs, la paix entre les hommes et Dieu, ni entre les hommes entre eux, que le sacrifice de Christ à la croix du calvaire. Il n'y a pas d'autre moyen, car Dieu a voulu que toute plénitude, dit l'apôtre Paul aux Colossiens, habita en lui. Il a voulu, par lui, par Christ donc, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair. Et donc on voit la centralité vraiment de Christ, de l'œuvre expiatoire de Christ pour la réconciliation. Bien sûr, avec Dieu, cela peut-être tombe de sens pour nous, mais aussi pour la réconciliation des hommes entre eux, pour la vie des hommes entre eux dans la paix ici. Et notez aussi que Christ est l'unique moyen, mais il est aussi indispensable pour tous les hommes. L'apôtre Paul dit, il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin et à ceux qui étaient près. Et c'est tellement une situation ici, on pense d'Ésaïe 57, où il est dit, « Je mettrai ma louange sur les lèvres, paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près. » Et donc, Paul applique cela pour distinguer vraiment ceux qui étaient loin, c'est les païens, ceux qui sont près, c'est les juifs, parce qu'ils ont reçu tous les oracles de Dieu. Mais il dit que Dieu est venu annoncer, Jésus est venu annoncer la paix aux deux. Ici. Et on pourrait penser que seuls les païens, jadis éloignés, avaient besoin vraiment de connaître cette paix et que la proximité des juifs avec les choses spirituelles, eh bien, pouvait les dispenser de connaître cette paix. Eh bien, il n'en est absolument rien. L'apôtre Paul montre ici que la proximité avec Christ n'apporte pas la paix. La proximité avec les choses, je veux dire plutôt, spirituelles et rituelles, n'apporte pas la paix. Les nombreux rituels et sacrifices qui se passaient jour après jour n'apportent pas la paix avec Dieu. L'Épître aux Hébreux le dit. Il dit, c'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Faire les sacrifices jour après jour, n'avait pas pour but de rendre parfait sous le rapport de la conscience, de donner la paix à la conscience. La conscience ne pouvait pas être en paix avec Dieu. Seule l'œuvre de Christ accomplie à la croix du calvaire procure la véritable paix entre l'homme et Dieu et procure aussi la véritable paix entre les hommes, les croyants et croyants dans leur relation. Les juifs comme les païens ont eu besoin, selon ce que l'apôtre Paul dit ici, du message de paix de l'Évangile disponible en Jésus-Christ seul. Et donc, aucune observance, aussi stricte soit-elle, ne peut sauver une âme, ni même la réconcilier avec Dieu. Il faut absolument croire en Jésus-Christ et placer sa confiance dans le sacrifice expiatoire de Christ accompli à la croix du calvaire. Et donc, Jésus-Christ et son œuvre est l'unique et indispensable moyen que Dieu donne pour accéder à cette paix avec lui. L'apôtre Paul dit, étant donc justifié, vous avez la paix avec Dieu, justifié par la foi en Jésus-Christ, bien entendu. Vous avez la paix avec Dieu. Il n'y a pas de paix hors de cela. Dieu, la Bible dit, est un Dieu de paix. Il est à l'initiative de la paix avec les hommes, mais il fournit aussi le seul moyen par lequel nous pouvons avoir la paix avec Dieu. Et puis, Quatrièmement, je voudrais souligner quels sont les effets de cette réconciliation opérée ici. On voit ici, regardez ce que l'apôtre Paul dit. On reprend le verset 13, il dit « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. » Une des choses que l'apôtre Paul souligne ici, c'est une démolition. Si vous voyez cela, qui a été accompli par l'œuvre de Christ à la croix du Calvaire. Il a renversé le mur de séparation qui mettait une inimitié entre les Juifs et les païens. On se souvient, je crois que c'était en 1989, quand le mur de Berlin, n'est-ce pas, a été renversé. Les gens étaient dans la joie, dans la liesse, parce que pendant pas combien de décennies, depuis la fin de la Seconde Guerre, en tout cas, ce mur a existé, et puis a séparé, bien sûr, Berlin en deux peuples. Un peuple vivait sous deux régimes complètement différents. Et quelqu'un faisait remarquer que depuis que le mur de Berlin a été renversé, eh bien, il y a beaucoup plus de murs actuellement qui ont été dressés. Parce que l'inimitié est toujours dans le cœur des hommes, et cette inimitié tend à faire quoi ? À dresser des murs de séparation. Mais quand l'apôtre Paul dit cela, je crois on peut penser qu'il a dans son esprit l'image du temple de Jérusalem, c'est pas construit par Hérode. Et dans ce temple, il y avait ce qu'on appelait, c'était un temple où il y a beaucoup de séparation, beaucoup de murs qui séparaient les choses. Il y avait des cours, il y avait la cour des femmes. Puis il y avait la cour des prêtres, mais il y avait aussi la cour des gentils, la cour des païens. Il y avait un mur qui séparait donc ces espaces-là. Et les païens, c'est-à-dire les prosélytes, ceux qui s'étaient convertis au judaïsme, qui étaient des païens convertis au judaïsme, ne pouvaient pas accéder à tous les endroits du temple. Ils devaient rester dans ce qu'ils appelaient la cour des le parvis des gentils. Donc c'était la cour la plus extérieure apparemment du temple. Et j'ai lu dans un commentaire qu'on a trouvé cet écriteau, les archéologues ont trouvé cet écriteau qui était sur ce mur et qui disait « Aucun non-juif ne peut pénétrer au-delà de la barricade qui entoure le sanctuaire et son enceinte. Celui qui le fera sera lui-même responsable de sa mort. » Pour montrer un petit peu la différence, la séparation qui existait entre les deux. Et ce mur cristallisait bien sûr la haine, l'hostilité que ces deux groupes de personnes entretenaient entre eux. Et rappelez-vous l'expérience que Paul a vécue. À un moment donné, Paul se promène avec Trophime qui était éphésien d'ailleurs, avec Trophime dans la ville. Et les Juifs l'attrapent quand il est dans le temple, et la Bible dit ceci, ils disent « Homme israélite, au secours, voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu, car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville, et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. » Et ils l'ont attrapé, ils l'ont fait sortir pour le faire mourir, et il a été sauvé, je crois que c'est par les soldats, il a été sauvé, et c'est ce qui l'a emmené depuis cet instant-là, où il est passé après 2 ans à Césarée, puis après il est arrivé à Rome, en prison, où il écrit cette lettre-là, ici. Et donc on pourrait penser qu'il y a encore cette image toute fraîche, toute vivante, et Paul dit ici, Dieu, Jésus-Christ, a renversé le mur de séparation. Ce mur qui existait. D'accord ? Il dit, il l'a renversé. Comment est-ce qu'il l'a renversé ? Il l'a renversé, dit-il, en anéantissant par sa chair La loi des ordonnances et des prescriptions, il a des prescriptions. Il dit qu'il a renversé en rendant la loi inopérante. C'est ce que ça veut dire ici. La cause donc de cette inimitié entre les Juifs et les païens, c'était quoi? C'était la loi. C'était la loi que Dieu avait donnée aux Juifs. Et de fait, le fait d'être les réceptacles de la loi de Dieu, l'apôtre Paul dit dans Romains, ils ont reçu les oracles de Dieu, et dans cela, ils ont un avantage particulier. Eh bien, certainement, ça a développé l'orgueil chez eux, et puis, on pourrait dire de l'animosité, ou peut-être une certaine jalousie chez les païens. Et cela, à cause de la loi, il y a eu cette hostilité qui a grandi. Donc la différence était voulue par Dieu, parce qu'il a choisi ce peuple. Mais l'hostilité n'était pas voulue par Dieu. D'accord ? Donc la différence, c'est une chose. L'hostilité ou l'animosité ou l'inimitié, c'en est une autre. L'hostilité naît, on l'a dit tout à l'heure, du péché, de l'orgueil dans le cœur. Mais la différence, elle, Dieu ne l'avait pas établie pour qu'il y ait hostilité, mais pour que ce peuple propage sa connaissance auprès des autres nations, pour que ce peuple soit le témoin de Dieu auprès des autres nations. Mais l'apôtre Paul dit ici que lorsque Christ est mort à la croix du calvaire, eh bien, il a anéanti par sa chair, par son sacrifice, la loi dans ses ordonnances et ses prescriptions. Cette loi qui mettait vraiment une différence entre les Juifs et les païens. Il y avait beaucoup de lois. Bon, il dit pas que Dieu a anéanti les 10 commandements. On sait que la loi, Jésus a dit, je suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Mais toutes ces prescriptions, parfois rituelles et tout cela, il dit que Dieu a effacé toutes ces choses. Et, par exemple, il y avait des lois sur les aliments. Et à cause des lois sur les aliments, les Juifs ne pouvaient pas manger avec les païens. Et lorsque Pierre est rentré chez Corneille pour prêcher l'évangile, la Bible dit que les apôtres et les autres frères circoncis l'ont vu le rencontrer et puis lui ont fait des reproches. Ils lui ont dit, ici, il dit, tu es entré, acte 11, verset 1 à 3, il dit, tu es rentré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. C'est grave. C'est grave. Et Pierre doit expliquer les choses. Lui-même, il a dû avoir la vision de Dieu pour ne pas considérer impur ce que Dieu a considéré pur. Rappelez-vous de la vision avec la nappe. Mais après, il a dû expliquer à cela. C'était quelque chose qui était vraiment ancré dans le cœur. Et ce sont les frères, les fidèles circoncis qui font ce reproche-là à Pierre. C'est pas des juifs non-croyants, mais c'est des fidèles circoncis d'origine juive qui disent « Mais tu es entré, tu n'aurais pas dû faire cela. » On sait quel problème cela a posé dans Galates. Vous vous rappelez lorsque l'apôtre Paul dit qu'il a dû reprendre Pierre à cause de dissimulation, parce qu'un coup il était avec les païens, il a mangé avec eux, et puis quand il a vu des circoncis arriver, il s'est un petit peu tenu à l'écart. C'était quelque chose qui est difficile, n'est-ce pas, à vivre pour eux. Eh bien, Paul dit que par son sacrifice, Dieu a renversé, Jésus a renversé le mur de séparation en anéantissant la loi. Jésus-Christ a accompli complètement toute la loi, d'accord ? Il a vécu parfaitement, donc nous ne sommes plus, bien sûr, sous la loi. L'apôtre Paul dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Et donc il n'y a plus de loi, de rituel qui puisse mettre de différence entre les Juifs et les Grecs et les païens. Et Paul dit, vous ne devez plus considérer ces choses comme des différences entre vous parce qu'elles ont été abolies. Donc ici on peut dire qu'il a démoli bien sûr quelque chose, le mur de séparation en rendant la loi inopérante. Mais il a aussi, et ça c'est magnifique, la Bible dit, l'apôtre Paul dit qu'il a créé quelque chose d'autre. Vous voyez, il a démoli une chose pour en créer une autre. Regardez bien le passage, il dit ici au verset 15, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix. Et encore, on continue. Et de les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Donc il a détruit le mur de séparation, il a détruit l'inimitié, tout ce qui causait l'inimitié entre Dieu et les hommes et entre les Juifs et les païens. Et puis il dit, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé
un homme nouveau.
Si on nous demandait de rétablir l'équilibre entre les Juifs et les païens, je crois que au maximum, ce qu'on aurait fait, ça aurait été de hisser les païens au niveau des Juifs, pour leur donner les mêmes avantages. C'est un peu comme ça qu'on fait, non, dans notre société, hein? Égalité homme-femme. On va lutter pour travail égal. La femme doit avoir le même salaire que l'homme, n'est-ce pas? Les couples mariés on peuvent avoir des enfants. Alors on va lutter pour que, n'est-ce pas, pour hisser ceux qui n'ont pas certains avantages aux mêmes avantages que les autres, au risque de faire bien sûr n'importe quoi. Mais regardez ce que l'apôtre Paul dit. Il ne dit pas que Dieu a hissé, il ne dit pas aux païens, Dieu vous a hissé maintenant au niveau des Juifs. Non, il dit qu'il a renversé le mur de séparation et il a établi une nouvelle création. Il n'y a plus donc ni Juif, ni Grec, ni esclave, ni libre, mais tous sont un en Jésus-Christ. Une nouvelle création, c'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Dieu n'a pas dit, voilà, je vais vous mettre comme les païens, mais il a dit, je vais créer un homme nouveau. Alors bien sûr, cet homme nouveau, c'est l'Église. C'est pas individuellement, je suis un homme nouveau, puis tu es un homme nouveau, etc. Non, c'est quand il dit, regardez comme il le dit, il dit, il a créé un homme nouveau, verset 16, et les a réconciliés avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps. En un seul corps. Donc il n'y a pas deux entités ici, mais il y a un seul homme nouveau créé par Dieu en un seul corps. Et c'est ce que l'apôtre Paul souligne, exprime ailleurs quand il dit aux Galates, par exemple, il dit, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. C'est-à-dire que d'être juif ou non juif. Il dit, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Il dit, voilà ce que Dieu a fait. Comment il nous a réconciliés avec lui-même, en créant un homme nouveau, une nouvelle société. Et donc, l'apôtre Paul ne dit pas, il faut parlementer entre vous, il faut essayer de trouver des compromis. Il dit non, regardez ce que Christ a fait à la croix du calvaire. Il est notre paix. Il a établi la paix. Il est venu nous annoncer la paix. Nous avons été maintenant rapprochés, unis à lui par son sang. Il a renversé toutes les différences. Et il a créé quelque chose de nouveau. Son corps qui est l'Église. Et c'est ainsi que vous devez vivre. Donc, nous devons vivre ces choses. Et je termine avec quelques applications pour nous là-dessus ce matin. Le meilleur moyen et unique moyen de régler tous les différends qui peuvent apparaître dans l'Assemblée, c'est de considérer la croix de Christ. Le meilleur moyen de régler tous les différends qu'on peut avoir les uns avec les autres, ça n'est pas d'essayer de hisser les uns au niveau des autres, de faire comme si des différences n'existent pas. Il y en a qui sont naturelles. On n'est pas tous pareils. D'accord ? On n'a pas tous la même couleur, on n'a pas tous le même arrière-plan, on ne vient pas tous du même pays, on n'a pas le même travail, on n'a pas le même niveau de salaire. On pourrait trouver multiples différences entre nous. Mais Dieu ne dit pas qu'il faut niveler par le haut ou niveler par le bas les choses. L'apôtre Paul montre ici que l'attitude que l'on doit avoir, c'est de chercher toujours à résoudre les problèmes. Quand les différences prennent la place qu'elles ne doivent pas prendre, la croix de Christ est ce que l'on doit regarder. Ce que Christ a accompli à la croix, l'œuvre de réconciliation qu'il a accomplie à la croix. Et donc nous commettons une erreur fondamentale lorsque nous traitons les problèmes sur la base du culturel. Quand on dit, voilà comment on traite ça chez nous, dans notre pays, voilà comment on fait ça en Martinique, voilà comment on fait ça, aux États-Unis ou en France, c'est comme ça. Non, le chrétien a comme base maintenant de réflexion l'œuvre que Christ a accomplie à la croix du calvaire. C'est toujours son point de départ pour régler toutes les situations. Jamais, jamais, la culture, l'apôtre Paul n'a pas... quand il parle de la culture ici, c'est pour dire que Dieu a renversé les choses. D'accord ? Il parle uniquement de Jésus-Christ et de la paix qu'il est venu apporter ici. Deuxièmement, je voudrais dire aussi que la réconciliation opérée par Christ à la croix du calvaire, c'est pas un processus qui est entamé que nous devons achever, hein, mais c'est une réalité dans laquelle nous devons croire vraiment. Que Dieu nous a réconciliés avec Christ. Et nous devons vivre aussi, et il nous a réconciliés aussi les uns avec les autres. C'est une réalité spirituelle, ici. Hein. Verset 18 dit, « Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. » Donc il y a une unité spirituelle qui a été accomplie à la croix du calvaire. Le plus grand besoin, troisièmement, de l'homme n'est pas que ses différences soient acceptées, mais c'est d'être une nouvelle création. Paul montre, voilà ce que Dieu a fait. Et ce que Dieu a fait, c'est ce dont l'homme a le plus besoin. C'est pas que l'on accepte ces différences. Et le monde nous pousse à accepter les différences des uns des autres. Ou la nouvelle orientation sexuelle des uns et des autres. C'est pas comme cela que l'on va vivre en paix. C'est pas cette paix-là que nous devons promouvoir. Celle que nous devons promouvoir, c'est celle qui consiste à dire aux hommes que Dieu veut changer les choses. Dieu veut t'apporter la vie. Dieu crée une nouvelle personne. On a lu dans 1 Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec Christ par Dieu. Et nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Voilà le message que nous devons apporter aux hommes. Pas dit oui, il faut que parce que tu es comme ça, ça soit accepté. Non, on a besoin d'être réconcilié avec Dieu et de venir à Jésus-Christ. Notre devoir est de vivre alors en harmonie avec nos frères et sœurs en Christ et d'œuvrer bien sûr à la réconciliation. La Bible nous encourage à vivre dans la réconciliation. Jésus dit, si tu viens que tu veux porter ton offrande et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, va trouver ton frère. Et qu'est-ce qu'il faut faire? On se réconcilie avec lui. Parce que lui, il a accompli une œuvre de réconciliation. Il nous a réconciliés l'un et l'autre avec Dieu en un seul corps. Et donc, c'est l'Église doit vivre cette réconciliation, n'est-ce pas? L'apôtre Paul dit aux Corinthiens que quand il parle du couple, qui sont dans des difficultés, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si l'homme est séparé de sa femme, qu'il ne se remarie pas. D'accord? Mais il dit, mais qu'il fasse quoi? Qu'il se réconcilie, il dit. Qu'il se réconcilie. Et donc on doit toujours tout faire pour aller vers la réconciliation. Quand il y a des difficultés, les uns avec les autres. On ne doit pas être en train de jeter de l'huile sur le feu, mais on doit être des artisans de paix qui travaillons à la réconciliation. Quand un couple a des difficultés, on ne doit pas dire, eh oui, peut-être que ça c'est un cas où tu peux divorcer. Non. On doit faire tout pour aider à la réconciliation. Parce que c'est ce à quoi la parole nous appelle. Dieu est le Dieu de réconciliation. Il nous a réconciliés avec lui et aussi les uns avec les autres. Et le signe que nous sommes réconciliés avec Dieu, ce sera quand nous vivons véritablement la réconciliation les uns avec les autres. C'est là que l'on mesure notre relation avec Dieu. Donc l'Église doit montrer vraiment le véritable modèle de relation pacifiée et apaisée avec Dieu et avec les autres. L'Église, c'est pas une coalition de personnes. Hein, on cohabite côte à côte le dimanche matin, d'accord, beaucoup, un petit peu le mardi soir, okay, et puis le reste du temps. Non, il dit que les gens doivent voir quand ils regardent l'Église cette diversité. Mais ils doivent voir aussi l'unité des gens qui vivent parce qu'ils sont en paix avec Dieu et parce qu'ils sont aussi en paix les uns avec les autres. Le monde ne connaît pas cela. Il ne peut pas le connaître. Parce qu'on ne peut pas vivre une véritable réconciliation les uns avec les autres sans être réconciliés véritablement avec Dieu. Donc quand je me retire de toute communion, les uns avec les autres, eh bien, je vais contre ce que l'Église doit être. L'apôtre Paul disait aux Éphésiens, je crois que c'est au chapitre 3, verset 8, 10, il dit « Moi, je suis le moindre de tous les saints. Cette grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens la richesse incompréhensible de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché en tous les temps en Dieu qui a créé toutes choses. » Il dit « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » L'Église, le corps de Christ aujourd'hui, et l'Église de Saint-Denis aujourd'hui, eh bien, doit montrer au monde ce que c'est que vivre en personne réconciliée. Et lorsque nous participons à la table du Seigneur comme nous l'avons fait, l'apôtre Paul dit que c'est la, nous exprimons notre communion avec Dieu, notre réconciliation avec Dieu, mais aussi notre réconciliation les uns avec les autres. Et oui. Et donc, quand nous ne participons pas, eh bien, nous n'obéissons pas à ce que Dieu nous commande de faire. Nous disons que nous ne sommes pas en communion avec les autres. Et nous disons donc, par conséquent, que nous ne le sommes pas avec Dieu non plus. Dieu veut cette table, qu'il appelle la table de la communion, quand les gens ont eu des différends entre eux, et puis que les choses s'arrangent. Souvent, quand ils mangent à table ensemble, c'est que les choses vont bien, n'est-ce pas ? La table est vraiment le symbole de la communion par excellence. On n'invite pas des ennemis à sa table. On invite des amis, des gens avec qui on est bien, on a une communion. Et Dieu invite ceux qu'il a réconciliés avec lui-même et qui doivent vivre en réconciliés les uns avec les autres pour exprimer cette communion, cette double réconciliation autour de sa table. Et puis je termine en disant aussi que nous devons donc annoncer la paix et la réconciliation en Jésus-Christ autour de nous. La Bible dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». L'apôtre Paul dit « Comment les gens comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ?» Et il dit « Et comment les gens entendront parler de l'Évangile s'il n'y a personne qui est envoyé ?» Et puis il ajoute, il cite ici, il dit « Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix ». Peut-être vous ne trouvez pas vos pieds très beaux, mais ceux qui annoncent la paix, qui sont des artisans de la réconciliation, la Bible dit que Dieu dit que leurs pieds même sont beaux. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, c'est-à-dire ceux qui annoncent vraiment l'Évangile. Donc le croyant doit être aussi un artisan de paix et il doit annoncer cette réconciliation en Jésus-Christ tout autour de lui. Donc que le Seigneur nous aide à considérer ces choses. Dieu nous a réconciliés avec Christ. Avec lui-même, pardon, en Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus-Christ. Et il veut aussi que nous vivions aussi en tant que réconciliés les uns avec les autres. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Que le Seigneur nous aide à vivre ces choses véritablement et à être de véritables témoins pour lui ici-bas. Merci encore, Seigneur, pour ta parole et merci de nous avoir rachetés, d'avoir fait de nous qui étions inimitié contre toi, des hommes et des femmes qui partageons ton intimité. Merci pour cet accès que nous avons par Jésus-Christ auprès de toi, dans un même esprit. Nous ne sommes plus des gens du dehors, des étrangers, nous sommes gens de ta maison. Et donne-nous de mesurer toutes les implications de cette vérité, de cette réalité, et de la vivre dans les relations que nous entretenons les uns avec les autres. Et aussi, Seigneur, la manière de vivre avec ceux du dehors. Nous te prions ces choses en ton nom et pour ta seule gloire. Amen.